Alors bonsoir Clément La Technique, bonsoir Isaac.
Bonsoir Richard, bonsoir Clément et bonsoir à tous.
Alors Isaac, démarrons notre émission par les États-Unis. L'actualité est assez riche aux États-Unis cette semaine. Et faisons peut-être un petit point sur les difficultés juridiques que rencontre Donald Trump. On sait que la stratégie de Joe Biden et des démocrates pour essayer de le défaire aux élections hein, de novembre, je dirais, repose sur trois piliers. Le premier, c'est d'essayer de faire croire hein, que l'élection de Donald Trump signerait la fin de la démocratie américaine. Le deuxième pilier, c'est probablement l'avortement. Et le troisième pilier, hein, c'est l'instrumentalisation hein, de la justice américaine pour essayer de le faire condamner dans un dossier ou dans un autre avant les élections, en espérant qu'une condamnation éventuelle pourrait influer sur le vote peut-être des indépendants ou de certains républicains plus centristes. Alors sur effectivement cette stratégie d'instrumentalisation de la justice américaine, faisons peut-être un rapide point parce qu'elle est, elle est riche de contenu, il y a beaucoup de dossiers.
Donc, on n'en parle pas ailleurs.
Pardon ?
Et on n'en parle pas ailleurs.
Tout à fait. Donc le premier, peut-être qui est le plus connu, c'est la tentative de certains États américains de disqualifier Donald Trump. Hein, donc le Colorado en tête, mais ce n'était pas le seul.
Le Maine
et l'Illinois avaient suivi. Il y a deux dossiers civils, d'ailleurs où il a déjà perdu. Hein, c'était deux dossiers à New York. L'un dans cette histoire du hush money, donc, il s'agissait de payer une prostituée pour la faire taire hein, dans ses déclarations. Là, il a perdu.
83 000.
Non, c'est pas du tout ça. Les deux dossiers civils, c'est d'abord avec une accusation de viol dans un grand magasin, dans une cabine d'essayage d'un grand magasin américain. Et là, il a déjà perdu. Il a été pas condamné au viol, mais condamné à une agression sexuelle, je pense, ou à un harcèlement sexuel, à payer 85 millions de dollars. Deuxième dossier civil, c'est pour ses affaires personnelles à New York, où il avait, je crois...
Prétendument
surévalué ses actifs immobiliers
pour obtenir des prêts à meilleures conditions.
Alors qu'il n'y avait aucune victime dans le sujet. Personne n'a jamais porté plainte. Aucune banque n'a perdu d'argent. Mais ils ont jugé bon de l'accuser de ce crime. Et il a effectivement été aussi condamné à payer, là, je pense, 350 millions.
Plus les intérêts, plus 460.
Donc on est peut-être à 450 millions de dollars d'amende. Donc sur ces deux dossiers-là, il a été condamné, mais ce sont des dossiers au civil, qui sont d'ailleurs beaucoup plus faciles à faire condamner parce qu'effectivement, il s'agit de la prépondérance de la preuve et non pas du doute raisonnable hein, pour pouvoir faire condamner quelqu'un. En plus, c'est à New York. Donc à New York, évidemment...
Un conservateur ne peut pas gagner un procès.
Et surtout, encore moins Donald Trump. Mais alors, sur le premier sujet, donc celui de la disqualification, et là, il a gagné haut la main, puisque la Cour suprême s'est prononcée 9-0. On l'a vu, je pense, d'ailleurs, prédit ici tous les deux, que les 9 juges de la Cour suprême d'unisson prendraient la décision d'invalider la décision prise par la Cour suprême du Colorado. Donc ça, c'était une décision importante pour Trump. Et puis, alors, il y a les 4 procès pénaux qui sont, eux, pour le coup, toujours en cours. Alors, il y en a un qui est en Géorgie, où il est accusé d'avoir voulu inverser le résultat des élections en Géorgie.
Pour avoir les 11 000 voix qui lui étaient nécessaires pour dépasser son concurrent.
Exactement. Alors là, c'est une saga juste hallucinante en Géorgie, puisque l'avocat général chargé d'instruire ce dossier est maintenant elle-même accusée de conflit d'intérêts, puisqu'elle aurait recruté, enfin,
Elle a recruté un procureur général avec lequel...
Elle avait une affaire plus
privée.
Que sexuelle, voilà. Elle a menti sous serment sur la date à laquelle cette relation aurait démarré. On attend le résultat, la décision du juge, je pense, cette semaine sur sa disqualification probable. Mm-hmm. Donc, à mon avis, ce procès-là n'aura jamais lieu avant les élections de novembre. Il y a les documents confidentiels qu'il aurait conservés à Mar-a-Lago dans sa résidence en Floride. Là, encore une fois, le juge responsable de ce dossier-là est une républicaine qui semble être plutôt sensible à ses arguments en termes de délai, de dire, voilà, il n'y a pas question de faire un procès avant les élections parce qu'effectivement, ça interférerait sur les élections elles-mêmes. Donc, il paraît peu probable que ce procès-là ait lieu également avant les élections de novembre. Il y a ce procès, alors aussi, qui est le plus dingue de tous, hein, qui est le procès de New York, hein, où là, c'est ce fameux procès de Hush Money, donc il aurait effectivement payé une prostituée pour la faire taire avant les élections de 2020, je pense. Et là, le procès, effectivement, aura lieu. Je pense qu'il démarrera dans 2 semaines environ, dans le 20 mars ou le 25 mars. Mais bon, c'est tellement absurde comme accusation, hein, puisqu'en fait, l'accusation, c'est quoi ? C'est qu'on l'accuse d'avoir falsifié ses livres comptables pour ne pas avoir intitulé la dépense faite à cette prostituée comme étant une dépense pour la faire taire.
On imagine, difficilement quelqu'un qui dirait à quoi servirait cet argent.
Et puis le dernier procès, c'est le procès du 6 janvier de Jack Smith. Et là aussi, il est peu probable maintenant que ce procès ait lieu avant novembre. Puisque la Cour suprême a maintenant accepté, et je crois que la décision, en tout cas, les auditions auront lieu fin avril seulement, a accepté d'écouter les deux parties, hein, donc Jack Smith, mais aussi évidemment les défenseurs de Donald Trump, pour tout ce qui touche l'immunité du président. Donald Trump estime qu'il avait une immunité totale en tant que président sur ses actions, y compris pour celle du 6 janvier. Maintenant, la Cour suprême va les écouter fin avril, probablement se prononcera fin juin. Quelle que soit sa décision, il paraît encore une fois très peu probable qu'un procès ait lieu avant le mois de novembre, Isaac.
Oui, écoutez, si le passé est d'une quelconque aide pour essayer de lire l'avenir, je veux dire, de toutes les façons, tous ces procès lui profitent. Puisque à chaque fois qu'il est interpellé, tiré par la manche par l'une ou l'autre accusation, eh bien, je veux dire, les électeurs conservateurs se lient plus encore au destin de Donald Trump. Je veux dire, toutes ces affaires ont plus profité à Donald Trump que lui aurait au contraire manqué. Donc je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on pourrait empêcher d'avoir Donald Trump comme candidat du Parti républicain à l'élection du 5 novembre. Tout cela fera pchit, comme vous le disiez ou vous le supposiez justement. Je le pense également qu'il n'y aura aucun procès qui a une chance de déboucher sur quelque chose de concret ou qui empêcherait Donald Trump d'être le candidat du Parti républicain. Il a déjà enregistré une victoire auprès de la Cour suprême, puisqu'elle a statué que, en effet, les États comme l'Illinois, comme le Colorado ou le Maine, qui avaient retiré le nom de Donald Trump sur l'affiche proposée aux électeurs, n'étaient pas légales, et que ce droit revenait au Congrès. C'est au Congrès à décider si oui ou non tel candidat peut ou ne peut pas participer à une élection. Donc, c'est par 9 membres
dans le cas d'une accusation d'insurrection. C'est ça dont il s'agit.
Dans le cadre d'une
accusation d'insurrection.
Oui, de l'accusation d'une insurrection du 6 janvier. Tout à fait. Donc, ça n'est pas à la Cour suprême à se prononcer. Ça n'est pas aux États, à la Cour suprême des États considérés à se prononcer. C'est au Congrès fédéral à le dire. Donc, 9 membres de la Cour suprême se sont prononcé en faveur de Donald Trump, 0 contre, donc c'est une victoire. La deuxième fois que la Cour suprême se prononcera, c'est le 25 avril, vous le rappeliez justement, ça parlera de l'immunité du président américain quant aux événements qui se sont passés le 6 janvier. Est-ce que le 6 janvier, il était bien évidemment encore président des États-Unis, puisqu'il l'a été jusqu'au 20 janvier, donc il dit... Je bénéficiais naturellement d'une immunité présidentielle, puisque j'étais encore au pouvoir. Et que si on retirait cette immunité à un quelconque président des États-Unis demain, eh bien son action politique pendant qu'il est aux affaires serait entravée par le risque de ce que, après son mandat, il pourrait être poursuivi pour une action illégale qu'il aurait entreprise pendant qu'il était aux affaires. Et donc, ça exposerait tous les présidents des États-Unis, ça les affaiblirait considérablement, parce qu'ils penseraient à l'après-mandat pendant qu'ils sont aux affaires. Bien. On attendra le 25 avril. Je pense qu'il y a assez peu de doutes sur le résultat de ce que la Cour suprême dira le 25 avril, d'autant que les deux parties seront entendues et que Donald Trump fera entendre clairement que dans son meeting qui précède de peu cette émeute au Congrès fédéral, il invite ses partisans à manifester leur opposition à la certification des résultats de l'élection de 2020, mais de le faire patriotiquement
et pacifiquement.
Et pacifiquement. Ces deux adverbes ont été chaque fois
escamotés,
occultés complètement lorsque l'accusation est portée contre Donald Trump. Qui vivra, verra, nous verrons bien. En tout cas, pour l'instant, Donald Trump vole de victoire en victoire. On l'a vu au Super Tuesday. Il a remporté 14 États sur les 15 qui étaient consultés. Et Nikki Haley, qui était la dernière opposante, la dernière candidate à l'investiture du Parti républicain, a renoncé à poursuivre son combat. Donc il est désormais considéré par le Parti républicain, d'ailleurs, comme le presumptive, c'est-à-dire le candidat présumé, puisqu'il a, je pense, réuni déjà 1055 délégués sur les 1215 qui lui sont nécessaires pour avoir cette investiture officiellement. Donc on s'oriente vers un match, un rematch, une revanche entre le président sortant, Joe Biden, s'il va jusqu'au bout de son mandat, et sauf surprise pendant la Convention nationale démocrate à l'été, où on pourrait estimer que c'est trop demandé à un homme frêle qui a montré ses limites physiques tout au long de ce mandat, d'entreprendre un deuxième terme de 4 ans, et qu'il pourrait être remplacé. Mais disons que, sauf surprise, on aura donc les mêmes partenaires, les mêmes opposants, l'un qui aura 81 ans, l'autre qui en aura 77, pour dire quel sera le destin des États-Unis dans les quatre prochaines années.
Alors effectivement, les sondages, en tout cas, donne Donald Trump gagnant,
oui.
Que ce soit au
vote
niveau
populaire aussi, hein.
Vote populaire aussi, que ce soit au niveau national, oui. Hein, il est entre 2 et 5 %, mm-hmm. Donné gagnant entre 2 et 5 %. Lorsqu'il y a des candidats indépendants tiers qui participent aux élections, le score augmente pour lui, donc son avance se creuse, hein, puisqu'elle passe de 7 à 8 %. Par rapport à Joe Biden, et puis surtout dans les États pivots, dans les États clés où l'élection se jouera, c'est toujours les mêmes 5, 6, 7 États où l'élection se jouera, là il est aussi donné gagnant dans, je pense, la quasi-totalité de ces États pivots. Il y a aussi une statistique intéressante que je lisais, où 97% des gens qui ont voté pour Trump en 2020
voteront à nouveau,
déclarent leur intention de revoter pour lui en 2024, alors qu'il ne serait que 83% de ceux qui ont voté pour Joe Biden qui voteraient pour Joe Biden en 2024. Ce qui expliquerait effectivement l'avance que Trump a vis-à-vis de Joe Biden. Et puis aussi, il y a quelques votes ou quelques sondages intéressants concernant le vote des Hispaniques.
Oui, les Noirs.
Il est en fait en tête également vis-à-vis des Hispaniques, hein, 46% versus 40% pour Joe Biden. Et même les Noirs, une progression très spectaculaire, puisque avec 8% de la population noire qui avait voté pour Trump en 2020, et aujourd'hui, en tout cas d'après les sondages actuels, 23%, près d'un quart de la population noire, se dit prête à voter pour Donald Trump en 2024. Donc on voit quand même des statistiques tout à fait favorables à Donald Trump.
Oui, voilà. Pour l'instant, tout indique que face à cet adversaire Joe Biden et à son bilan, la voie est toute tracée pour une réélection tout à fait historique de Donald Trump. Il faut savoir que c'est un comeback politique absolument ahurissant. Je veux dire, en 2020, après sa défaite, ou sa défaite présumée à la dernière élection, personne n'aurait parié deux sous sur l'avenir politique de Donald Trump. Et il a fait un comeback absolument extraordinaire. Il a monopolisé pratiquement tout le parti. Désormais, le Parti républicain, c'est le parti de Donald Trump. Il a défait tous les concurrents pour la nomination du Parti républicain les uns derrière les autres, et de façon écrasante et convaincante. Tout le monde, désormais, appelle à voter pour Donald Trump, à l'exception de Nikki Haley.
Pas encore,
ça va peut-être.
Mitch McConnell, là.
Même Mitch McConnell, tout à fait. Donc il y a vraiment le Parti républicain qui est unique derrière un seul homme. Et effectivement, si les élections avaient lieu aujourd'hui, compte tenu du bilan du quadriennat de Joe Biden, il fait peu de doute que Donald Trump serait élu. Mais bon, il y a encore beaucoup de surprises qui peuvent se passer entre le mois de mars où nous nous trouvons maintenant et le 5 novembre. Beaucoup de choses peuvent se passer. Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse particulièrement à la politique américaine ? Parce que dans ce qui nous intéresse et nous stresse et nous préoccupe énormément, ben, c'est le regard que porte l'Amérique sur Israël. Et c'est vrai que ces dernières semaines en particulier ont été riches en déclarations des uns ou des autres responsables américains pour allumer des signaux d'alerte pour les Israéliens. Et donc il est important de savoir comment est-ce que l'Amérique, quelle direction, quel cap l'Amérique va prendre à partir du 5 novembre.
Tout à fait. Et peut-être certaines indications, en tout cas, oui. Nous ont été données dans le State of the Union Address de Joe Biden. Hein, c'était son fameux discours
dernier,
de l'État de l'Union.
Son dernier discours sur l'État de l'Union l'état de son l'Union. Mandat.
Alors peut-être mieux l'appeler l'État de désunion. Parce que, bon, effectivement, alors qu'il avait été élu il y a 3 ans comme le grand unificateur, en tout cas c'était son objectif, c'était son grand message, je serai le grand unificateur des États-Unis après les divisions causées par la présidence de Donald Trump. Son discours était, je pense, tout le contraire d'un discours d'union, hein, oui. Puisqu'il a passé le plus clair de son temps à s'en prendre à son prédécesseur, je crois qu'il n'a jamais...
Il n'a jamais dit le nom.
De Donald
My
Trump,
predecessor.
Il parlait toujours du prédécesseur,
en effet.
Mais une grande partie de son discours était effectivement axée sur l'immense danger que constituerait le retour au pouvoir de son prédécesseur.
Pour la démocratie.
Pour la démocratie, hein, évidemment, pour la République américaine. C'est le discours habituel. Mais évidemment, il a aussi parlé dans ce discours, évidemment, de la situation au Moyen-Orient. Effectivement, il a eu des propos peut-être quand même assez inquiétants. Puisque d'abord il a dit, il a repris les chiffres du Hamas, hein, donc les fameux 30 000 morts qui sont répétés à l'envi par toutes les organisations internationales, tous les médias qui sont des chiffres du Hamas. Alors qu'il avait émis de sérieux doutes sur la véracité des chiffres du Hamas
en octobre. Avant de s'en excuser, ouais. De les avoir mis en doute.
Tout à fait. Alors maintenant, subitement, ces chiffres-là sont. Les chiffres officiels du gouvernement américain également, puisqu'il s'en est référé. Voilà, il y a 30 000 morts. Et il a dit donc qu'il ne faut absolument pas que les Israéliens fassent du droit humanitaire une monnaie d'échange. Comme si c'était ce qu'avaient fait les Israéliens depuis le début de cette guerre. Donc il a eu des mots quand même relativement sévères vis-à-vis d'Israël, Isaac.
Oui, très sévères. Et vous faites bien de souligner que son discours... sur l'état de l'Union, qui est en principe un discours fédérateur. On n'a jamais entendu, de mémoire d'homme, un discours aussi partisan, aussi offensif, aussi hostile au parti qui est dans l'opposition, en l'occurrence maintenant les conservateurs. Il n'a pas honoré son futur compétiteur, son futur concurrent à l'élection présidentielle, de le nommer par son nom, à chaque fois en se référant au prédécesseur, comme si dire le mot Trump lui écorchait la bouche. Alors il a passé l'essentiel de son temps à dire tout le mal qu'il fallait penser de Donald Trump, de son bilan de 2016 à 2020 et de ce que serait un nouveau mandat de Donald Trump à partir de janvier 2025. Lorsqu'il a cessé de frapper sur son prédécesseur, il a consacré l'essentiel de son discours, de ses propos, à effectivement la situation entre Israël et Gaza. Il y a consacré 5 minutes 20, bien plus que le temps qu'il a consacré à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, 3 minutes 45, plus encore qu'à la crise sur la frontière méridionale, plus encore sur l'accès des Américains aux armes à feu sur le deuxième amendement. Donc, c'était la principale préoccupation. Et tout ça pour dire quoi ? Ou pour laisser entendre quoi ? Eh bien que Benjamin Netanyahu serait le principal obstacle à la fin de la guerre. Et qu'il fallait un cessez-le-feu immédiat. On se rappellera que jusqu'il y a peu de temps seulement, les Américains liaient la demande de cessez-le-feu à la libération des otages. Celle-ci ne figure même plus, cette exigence de libération des otages, pour demander un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu now, maintenant. Et également faire entendre que eh bien, l'administration américaine pourrait revoir la livraison d'armes à Israël. Alors, dans une interview qu'il a accordée à MSNBC, qui est la chaîne de télévision la plus à gauche dans le paysage médiatique américain, donc il s'adressait nécessairement à un public qui l'attendait au tournant sur la question, et l'essentiel de l'interview portait d'ailleurs sur la guerre entre Israël et le Hamas. Il a déclaré qu'il fallait peut-être envisager la fin des livraisons d'armes à Israël.
D'armes offensives.
Il n'a pas parlé d'armes offensives ou d'armes défensives. Il est resté dans l'explicite, dans l'implicite, dans le vague. Mais il a laissé penser qu'on pouvait revoir l'engagement des États-Unis à la fourniture d'armes au profit d'Israël. Mais naturellement, je reste très lié, très préoccupé par la sécurité d'Israël. Et évidemment, les Israéliens ne seront pas privés de leur couverture du Iron Dome. Ça laisse entendre quoi ? Que les armes défensives ne feraient pas partie d'une interdiction de fourniture d'armes au profit d'Israël, mais les armes offensives pourraient l'être. Donc il y aurait une sorte d'embargo sélectif entre les armes qui continueraient d'être livrées à Israël, les armes défensives, et certaines autres qui ne le seraient plus, parce que l'administration américaine est opposée, sauf à production par les Israéliens d'un plan qui mettrait la population civile de Rafah à l'abri, serait opposée à une intervention israélienne à Rafah pour mettre un terme à la nuisance du Hamas. Donc il y a un changement de ton, évident. C'est vrai qu'il a tenu cette interview avec MSNBC la veille d'un déplacement qu'il faisait au Michigan, qui est un État charnière, qui est l'État américain où il y a la plus grande concentration de musulmans aux États-Unis, 300 000. Donc c'est important dans la perspective de la campagne électorale. Il doit courtiser cet électorat. Et donc, c'est ces propos qui laissent entendre que Benjamin Netanyahou est le principal obstacle, l'intervention également de la vice-présidente Kamala Harris qui dit qu'il faut distinguer entre la population israélienne et le gouvernement israélien, c'est extraordinaire parce que c'est articulé de la même manière qu'elle avait dit qu'il fallait, ou que le président avait dit qu'il fallait distinguer entre le Hamas et la population palestinienne qui n'en pouvait mais, qui n'était pas responsable de ce qu'avait fait le Hamas. Donc de laisser entendre que le Hamas est responsable dans un cas, mais s'il faut distinguer entre la population israélienne et le gouvernement israélien, donc le gouvernement israélien est l'équivalent du Hamas. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est extraordinaire. Lorsque vous couplez ça avec l'intervention du président américain qui déclare que Benjamin Netanyahou fait plus de mal à Israël qu'il n'en fait de bien, ça veut dire une opposition frontale avec ce gouvernement israélien. Donc ça, c'était déjà dans les tuyaux, cette volonté américaine de contourner le Premier ministre israélien, de parler à l'opposition, de la renforcer, d'accueillir avec le tapis rouge eh bien Benjamin Gantz lors de son dernier déplacement aux États-Unis avant de débarquer en Grande-Bretagne. Donc on voit qu'il y a manifestement une opposition frontale, une irritation croissante entre les deux administrations. Et de dire que cette guerre pour Joe Biden devrait être livrée d'une autre manière, qu'il y a un hiatus, qu'il y a un gap entre ce que ressentent les Israéliens et le Premier ministre israélien, c'est tout simplement faux. Et d'ailleurs, c'est ce que Benjamin Netanyahu a dit dans une déclaration publique le lendemain, lorsqu'il a accordé une interview à Politico, qui est un organe médiatique de gauche. Il a dit que c'est tout simplement faux, ce qui est rare comme mise au point de cette manière entre alliés, parce que effectivement, quel que soit le Premier ministre qui serait en charge des affaires en Israël, la guerre ne serait pas menée différemment que ce qu'elle est menée. À entendre Benjamin Gantz, il faut aller à Rafah. À entendre Yoav Gallant, il faut aller à Rafah et il faut prendre Rafah. Et il n'y a pas de solution au problème posé par le Hamas tout le temps que Israël ne contrôle pas Rafah. Et de plus, la population israélienne, même si elle est à 70%, qu'elle pose un regard plus ou moins hostile à l'égard du Premier ministre israélien, elle est avec lui dans les buts de guerre, c'est-à-dire l'éradication du Hamas et le refus de se voir imposer de force la création d'un État palestinien.
Oui, et un homme comme Isaac Herzog également, hein, oui, qui est un homme de gauche, oui, hein, oui, puisque l'ancien président du Parti socialiste israélien, fait le même type de déclaration. Hein. Il dit aux Américains, le moment n'est pas venu de parler d'une solution à deux États. Il faut effectivement éradiquer le Hamas. Donc je pense qu'effectivement, toute la classe politique, ou la quasi-totalité...
Et la population.
Et la population israélienne, effectivement, est dans un consensus sur cette question-là. Donc effectivement, le positionnement américain est très bizarre, hein, d'essayer de faire une distinction entre Netanyahou, son gouvernement, et le peuple israélien est clairement totalement...
Mais c'était pour établir une équidistance. Ouais. C'est pour établir une équidistance. Non, de la même manière que la population palestinienne, ce ne serait pas le Hamas, alors que les sondages réalisés par des instituts de sondage palestiniens prouvent exactement le contraire, puisque l'adhésion des Palestiniens de Judée-Samarie comme de Gaza, elle est forte derrière les actions du Hamas le 7 octobre, et de dire que le gouvernement israélien et la population israélienne, c'est deux choses différentes, c'est de dresser ou de susciter... ou d'instiller l'idée que peut-être, eh bien, si le Hamas est condamnable, le gouvernement israélien ne l'est pas moins.
Il a rajouté aussi dans cette interview, je crois, avec MSNBC, qu'il ne faudrait surtout pas qu'il y ait de nouveau 30 000 morts de plus, hein, rajouté aux 30 000 morts qui ont déjà été, soi-disant, comptabilisés par le Hamas. Enfin, il faut rappeler aussi quand même que chaque année aux États-Unis, il y a 100 000 morts.
Oui, du fentanyl.
Du fentanyl, hein, donc, et on sait que le fentanyl, c'est cette drogue qui vient du Mexique essentiellement, enfin importée de Chine, qui rentre aux États-Unis par le Mexique. C'est que la politique laxiste migratoire américaine fait que voilà, il y a environ 100 000 morts chaque année. C'est 300 000 morts américains, je crois, d'âge de 25 à 40 ans. C'est la cause première de décès aux États-Unis dans la tranche d'âge de 25-40 ans. 300 000 morts, 10 fois plus que les soi-disant 30 000 morts à Gaza, sous la responsabilité de Joe Biden lui-même, qui ne fait strictement rien pour empêcher ce déferlement de drogue aux États-Unis.
Tout à fait. C'est une tragédie nationale, et qui va laisser des traces très, très profondes et durables dans la société civile américaine. Mais moi, je ne voudrais pas comparer les chiffres de 30 000 à 100 000. Parce que
300 000,
ouais, 300 000, ouais.
10 fois plus de morts américains.
Ça n'a pas d'importance. Je veux dire, 30 000, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Évidemment que c'est une tragédie dans la population civile de Gaza. Évidemment qu'un innocent qui meurt, qui n'aurait pas approuvé l'action du Hamas, c'est un de trop. C'est tellement évident que c'est presque obscène d'avoir à le rappeler. Mais enfin, si même on valide les chiffres du Hamas, 30 000 morts, je veux dire, ils les regrettent tous. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'il n'y a pas un seul terroriste, il n'y a pas un seul milicien, il n'y a pas un seul combattant du Hamas qui aurait été tué. Donc ils valident un chiffre du Hamas, une organisation terroriste, inscrite sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis. Ils valident un tel chiffre, mais ils ne tiennent pas compte du tout du chiffre avancé par Israël quant aux miliciens qui ont été éliminés, entre 12 et 13 000. Ça voudrait dire qu'il y a non pas 30 000 dont il faut déplorer la perte, la mort, mais 16 000, 17 000, 18 000. Ça reste considérable, encore que je ne sais pas sur les 17 ou 18 000 personnes qui seraient des civils, combien ont approuvé ce que le Hamas a fait le 7 octobre avant que Israël réagisse. Bien. Mais, je veux dire, c'est ne faire aucun cas des chiffres avancés par l'armée israélienne, d'une démocratie, d'un allié privilégié des États-Unis, de dire les 30 000 morts, c'est trop. Mais peut-être devrait-il dire 30 000 morts moins ceux que Israël a éliminés comme miliciens. Donc, il y a quelque chose d'absurde, d'autant plus absurde qu'en octobre, deux semaines après le début des combats, eh bien, il y avait Joe Biden qui disait n'accorder aucun crédit aux chiffres des dégâts dans la population civile palestinienne parce que ça venait d'une organisation terroriste. Ben, il parlait d'or, c'était tout à fait évident.
Quelques jours après l'affaire de l'hôpital, hein, les 500 morts qui se sont transformés en 50.
Exactement. Ouais. On se rappellera les 471 morts que le Hamas avait avancés une demi-heure après que cette roquette de la djihad islamique tombe sur le parking de l'hôpital. Mais quelques jours seulement après avoir dit n'accorder aucun crédit aux chiffres avancés par le Hamas, il s'excusait devant le tollé que ses propos avaient provoqué dans la population arabo-américaine. Et il a dit « si, 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 j'y crois ». C'est dire combien il est devenu l'otage de cette population, en particulier dans les États bascules où ils sont en position de pouvoir faire basculer l'élection dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est faire peu de cas. Et là, je pense que c'est un élément important qu'il faut souligner, c'est faire peu de cas sur le vote juif. C'est-à-dire qu'il fait comme si la seule population qu'il fallait désormais courtiser pour assurer sa réélection à la présidence des États-Unis, c'était les musulmans dans les États bascules. Mais c'est comme s'il faisait, comme s'il ne doutait pas un instant de ce que la population juive américaine allait voter comme un seul homme derrière le Parti démocrate, comme elle en a l'habitude d'ailleurs. Il serait donc temps pour les représentants des organisations juives américaines de dire au président, de convoyer le message au président des États-Unis, attention, vous êtes en train de jeter Israël sous le bus pour des considérations domestiques. Et nous ne sommes pas prêts à vous suivre sur ce plan, parce que si même nous restons fidèles au Parti démocrate, nous n'acceptons pas eh bien, que vous mettiez en danger la sécurité de l'État d'Israël en privant le pays, l'État juif, du droit d'éliminer un danger qui pèse sur sa sécurité.
Alors, gageons, espérons que ces organisations juives
se manifesteront
ou qu'ils ont déjà fait passer le message.
Bon, ou espérons. Que chaque juif aux États-Unis se fasse un examen de conscience.
Alors ce qui est également aussi étonnant dans cette formulation qu'il a donné à MSNBC en disant voilà, que Benjamin Netanyahou causait peut-être plus de tort que de bien à son peuple, c'est que ça vient de Joe Biden.
Oui. Ben,
s'il y a bien quelqu'un qui ferait bien d'être un petit peu modeste lorsqu'il s'agit de faire un bilan sur son action, enfin rappelons quand même Joe Biden, lorsqu'il a été élu président de la République aux États-Unis il y a 3 ans, première action, première décision qu'il a prise, ou en tout cas une des toutes premières, c'était d'enlever les outils
De la liste d'organisations terroristes.
Deux, c'était de réengager les discussions avec l'Iran et de lever les sanctions, ce qui aura permis à l'Iran de se renforcer financièrement. Donc les coffres maintenant sont pleins. 150 milliards de dollars dans les coffres iraniens alors qu'ils étaient plus ou moins vides au moment où Donald Trump
a quitté le pouvoir.
Il a annulé ce fameux pipeline là, qui venait d'Alberta vers les États-Unis, alors tout en donnant son accord pour le pipeline Nord Stream 2 qui devait partir de Russie en Allemagne, donc clairement indiquant là, son soutien pour que l'Allemagne devienne totalement dépendante de la Russie. On se souviendra de la débâcle afghane. On se souviendra également que c'est sous sa responsabilité que la Russie aura attaqué
l'Ukraine,
que c'est effectivement aussi sous son leadership que le drame du 7 octobre aura eu lieu. Donc,
et que la Chine menace Taïwan.
Et que la Chine menace Taïwan et aura fait balader ses petits ballons là au-dessus des États-Unis. Donc dans le domaine de la politique étrangère, c'est un désastre de A à Z. Peut-être que seulement dans le dossier ukrainien, il aura tenu un petit peu son rang. Et puis en matière intérieure, enfin écoutez, effectivement, vous mentionniez là, le déferlement migratoire, 7 à 8 millions d'illégaux qui sont rentrés aux États-Unis depuis qu'il est là. C'est 100 000 morts du fentanyl par an. Le niveau de crime dans les villes américaines qui dépasse tous les records. Bon, ce problème énergétique, l'inflation puisque ils ont fait passer ces lois, soi-disant des lois de réduction de l'inflation qui n'ont eu qu'une seule conséquence, c'est d'augmenter l'inflation. L'inflation était à 9%. Dans son discours, il s'est vanté que l'inflation avait baissé maintenant à 3%. En oubliant de rappeler qu'elle vient de 9%, ce qui veut dire 9 plus 2, ça fait 12%, ça fait quand même 6% par an. Enfin, quel que soit le sujet qu'on regarde, sur la politique extérieure ou la politique intérieure, c'est un désastre absolu. Et ça se reflète effectivement dans ces sondages dont on parlait tout à l'heure. Et donc, le culot qu'a ce monsieur d'accuser Benjamin Netanyahou de faire plus de tort que de mal à sa population.
Oui, les Italiens disent « da che pulpito », de quel pupitre se prononce-t-il de cette façon-là. Encore une fois, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette qui sépare les buts de guerre d'Israël, du gouvernement israélien et du cabinet de guerre et la population israélienne, à l'exception bien entendu de la famille des familles des otages, dont on comprend qu'elles seraient prêtes à payer n'importe quel prix pour que prenne fin la guerre et la libération de leur chair. Ça, on peut le comprendre parfaitement. Mais il y a très peu d'Israéliens, dans la population juive israélienne en tout cas, qui souhaitent mettre un terme à cette guerre avant que les buts de guerre soient satisfaits et prévenir tout danger ultérieur provenant d'une organisation terroriste à Gaza. Donc dire que Benjamin Netanyahou fait plus de mal à Israël qu'il n'en fait de bien, qu'il s'est assis sur les enseignements des pères d'Israël. C'est quand même ahurissant, cette affaire-là. Je pense que le bilan que vous avez résumé du président américain est suffisamment éloquent. C'est bien résumé. En politique étrangère, c'est un véritable... C'est une catastrophe. Sur le plan intérieur, c'est pareil. La gestion de la frontière méridionale, la gestion de la santé, le fentanyl, vous l'avez évoqué, l'inflation.
Niveau de crime dans les villes américaines.
Niveau de crime dans les villes démocrates, essentiellement, dans les grandes villes démocrates comme Chicago, New York, Los Angeles, San Francisco, ça atteint un niveau ahurissant. Depuis la mort de George Floyd et le Defund the Police, ce mouvement qui demandait à ce qu'on cesse de financer les forces de police américaines. Donc c'est un véritable désastre. Je pense que face à n'importe quel autre candidat que Donald Trump qui représentait le Parti républicain, il serait capable de remporter 48 ou 49 États sur 50 et refaire un peu l'exploit de Reagan, de Ronald Reagan.
Mandel, c'était, je crois.
Oui, dans son deuxième mandat, en 1984, où il avait remporté 49 États sur 50. Donc il serait capable... Parce que le bilan de Joe Biden est absolument désastreux, véritablement désastreux. Bon, il y a la personnalité de Donald Trump. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les attaques dans son dernier discours sur l'état de l'Union ont été une heure pratiquement continue d'attaques ad hominem contre Donald Trump, les menaces qu'il ferait porter sur la démocratie. Donc, c'est pour ne pas parler de son mandat, c'est pas parler de son bilan. Ce que manquera pas de faire, en revanche, Donald Trump.
Et qu'il l'a invité, je pense, à un débat, mais oui. Qu'il n'a pas encore accepté. Bon, on serait curieux de voir s'il acceptera de faire un débat contre Donald Trump.
Mais je ne sais pas combien de temps dureraient les produits qu'on a certainement injectés dans le corps de Joe Biden pour qu'il ait autant de stamina, autant de vigueur, autant de force, autant de présence. Aussi.
C'est dopé, Isaac, c'est sûr.
Oui, ça paraît évident. On dope bien des athlètes pour multiplier leur capacité physique. On peut également doper un individu pour, pendant une heure, être capable de tenir un discours cohérent et d'avoir donné l'impression d'être présent pendant son discours. Mais ce qui est aussi remarquable, et on peut revenir un instant sur ce discours sur l'état de l'Union, c'est que lorsqu'il l'a terminé et qu'il va recueillir les poignées de main des uns et des autres, les tapes sur les épaules, les félicitations, etc., il va dire sénateur du Colorado, j'ai plus son nom, Bennett. Oui. Un sénateur du Colorado, Bennett, il va lui dire nous aurons besoin, Benjamin Netanyahu et moi, to come to Jesus moment. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, to come to, Jesus moment? Ça veut dire avoir soit une discussion très sérieuse, soit alors, ça peut aussi évoquer le besoin pour Benjamin Netanyahu de, eh bien, de se rapprocher des valeurs chrétiennes. je ne sais pas. Mais ça avait quelque chose d'ahurissant parce que dans un premier temps, il dit ça s'est pas passé. J'ai jamais dit ça.
Et puis il y avait un micro qui n'avait pas.
Et puis il y avait un micro qui était ouvert. On voit quelqu'un qui s'approche du président et qui lui dit ne dites pas ça parce que le micro est allumé. Et puis, dans un premier temps, il va nier avoir jamais dit ça. Et puis, dans un deuxième temps, il va dire « Oui, je l'ai bien dit, mais de toute façon, Benjamin Netanyahu a parfaitement compris ce que je voulais dire par ça. »
Alors, il y a un pays dont on parle beaucoup, mais peut-être pas suffisamment en ce qui concerne ce fameux dossier nucléaire. On parle beaucoup d'Iran, évidemment, puisqu'on sait que c'est la tête du serpent dans ce conflit. Ouais. Mais le fameux dossier nucléaire iranien... C'est celui que moi j'estime être peut-être le plus inquiétant dans toute cette histoire depuis le 7 octobre. Parce que Raphaël Grossi, qui est donc le directeur de l'agence nucléaire aux Nations Unies, a sorti un nouveau rapport la semaine dernière.
Où il dit ?
Où il déclare, voilà, j'ai perdu tout contrôle de ce qui se passe en Iran.
Je ne sais plus rien.
Je ne sais plus ce qui se passe. Hein, toutes nos caméras de contrôle ont été supprimées. Désactivés. Nos meilleurs inspecteurs n'ont plus le droit de rentrer dans le pays. Nous savons qu'ils ont probablement suffisamment de stock d'uranium enrichi à 60% pour, s'ils devaient prendre la décision de l'enrichir à 90%, ce qui serait relativement simple pour eux de le faire, serait suffisant que pour construire, je pense, 12 à 13 bombes nucléaires. Et donc, il a appelé la communauté internationale à se mobiliser et à censurer l'Iran aux Nations Unies. C'est encore une fois l'administration américaine qui a refusé de le faire. Elle ne veut absolument pas offusquer, offenser, brusquer des Iraniens dans cette période qu'elle estime être sensible. Et donc, on a quand même encore cette situation. Les Iraniens progressent de plus en plus dans ce programme. Et avec ce qui s'est passé le 7 octobre, il est permis de penser que s'ils devaient un jour avoir cette bombe nucléaire, qu'ils n'hésiteraient peut-être pas à l'utiliser contre Israël. Donc, on parle très peu de ça. Plus personne ne semble être particulièrement intéressé par ce dossier. Et par contre, le vrai danger n'est-il pas là, Isaac ?
Bien sûr qu'il est là. Il n'a jamais disparu du tableau. Vous savez, quand quelqu'un promet de vous tuer, de vous éliminer, de vous annihiler, il faut le croire. Les nazis l'ont fait, aujourd'hui l'Iran le promet, le Hamas, ça fait partie de sa raison d'être, c'est sa raison d'être, tuer les juifs, les éliminer. Donc il faut les croire, il faut croire son ennemi. Il faut croire son ennemi lorsqu'il dit « je veux vous tuer ». On ne semble pas l'entendre en dehors d'Israël, dans les chancelleries occidentales, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, en tout cas avec cette administration américaine, on fait tout pour ne pas l'entendre, on fait tout pour se boucher les oreilles. Et depuis, vous savez, l'Iran téléguide tous ses proxys, qu'il s'agisse des Houthis, qu'il s'agisse du Hezbollah, du Hamas, des milices irakiennes pro-iraniennes, en Syrie c'est pareil. C'est un écran de fumée formidable pendant, derrière lequel eh bien, l'Iran continue d'avancer dans son programme nucléaire. Alors comme l'Iran était assez inquiet de ce que Raphaël Grossi de l'AIEA demande la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de ce programme nucléaire américain, demande qui a été faite d'ailleurs avec les Américains, nucléaires iraniens, voulais-je dire, demande que finalement Raphaël Grossi a faite, mais que les Américains ont refusé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Iraniens ? Ben, ils ont promis, ils ont dit aux Occidentaux qu'ils allaient se débarrasser de 6,4 kilos d'uranium qu'ils avaient déjà enrichi à 60% pour faire amende honorable, pour se gagner les bonnes grâces de la communauté internationale, en particulier des Occidentaux. Mais il faut savoir qu'ils disposaient, avant de se priver de 6 kilos, de 127 kilos. Donc il en reste 121. Et ils ont 700 kilos d'uranium enrichi à 20%. Donc largement suffisant. Pendant toutes ces guerres, Syrie avec les Houthis, dans le golfe d'Aden, avec le Hamas, avec cette guerre qui tait son nom entre Israël et le Hezbollah, évidemment que le programme nucléaire iranien continue d'avancer. À quel stade en est-on ? Dans leur enrichissement, on le sait, 120 kilos d'uranium enrichi à 60%, c'est une affaire d'une semaine ou deux seulement pour le porter à un enrichissement à 90%, c'est-à-dire le degré d'enrichissement nécessaire pour l'armement d'une bombe. On le sait. Donc, je veux dire, ça a avancé, mais on s'en accommode. Les Américains font tout depuis l'élection de Joe Biden pour permettre aux Iraniens d'avancer dans le programme nucléaire. Et c'est ça qui est effrayant. C'est ça qui est effrayant parce que très bientôt, ce sera une décision politique du guide iranien de décider on arme une bombe, on va maintenant construire une bombe et on va en faire des essais. Que ferons-nous ? Que ferons-nous bientôt, en 2025, les premiers effets de l'accord du 14 juillet 2015 se termineront. Je veux dire,
de toute façon, dans la pratique, ils sont terminés, puisque...
Mais oui, ils sont terminés, c'est un état du seuil. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait avec un état du seuil ? Je veux dire, il y a sur la liste des choses à faire pour Israël, il y a se débarrasser du Hamas. Demain, il y a le Hezbollah qui dépendra de la bonne volonté de l'Iran, qui mobilisera le Hezbollah en fonction de ses intérêts. Et derrière ça, il y a effectivement le programme nucléaire iranien contre lequel les administrations occidentales n'auront strictement rien fait pour le dénoncer ou pour le freiner.
Alors parlons peut-être un petit peu du monde culturel. Hein. On sait qu'il se dispute peut-être avec le monde médiatique et le monde académique la palme de qui sera le plus anti-israélien et dans certains cas le plus antisémite. Je pense moi de mon point de vue que c'est peut-être le monde culturel qui fait la preuve de plus de zèle dans cette idée-là. Donc il y a eu les Magritte en Belgique, qui ont permis à tous ceux qui voulaient déverser leur haine anti-israélienne de le faire à une heure de grande écoute. Il y a eu la Biennale de Venise. Alors là, il y a eu, je pense, 8 à 10 000 artistes qui ont signé une pétition demandant le boycott d'Israël pour la Biennale, mais il y a eu une bonne réaction de la ministre italienne de la culture.
Du ministre, San Giuliano.
Qui a dénoncé cette initiative. Donc, heureusement, elle ne sera pas suivie dans les faits. Il y a eu le festival de Berlin, oui. Hein, où Ben Russell est arrivé sur scène habillé en kéfier, je pense. Accuser Israël de génocide, d'apartheid, enfin de tous les mots habituels. Et puis il y a eu alors les Oscars, je pense, ce week-end, Isaac, que nous ont réservé les Oscars.
Bah, toujours les mêmes mauvaises surprises, même c'est pas vraiment surprise puisqu'on s'y attendait. Je veux dire, d'abord il y avait très très peu de personnes dans l'assistance qui portaient le ruban jaune de solidarité avec les otages. En revanche, un grand nombre portait un pin's rouge. Pour demander, qui est synonyme de demande de cessez-le-feu immédiat sans condition. Ensuite, les pro-palestiniens ou les antisémites ont essayé de gâcher la fête et d'empêcher les invités d'arriver au centre. Et puis les discours ont complètement zappé la tragédie des otages. Personne n'en a fait état. Personne n'a parlé des otages. Absolument personne. Et puis il y a quelque chose qui a frappé et qui a énormément choqué, c'est l'intervention de Jonathan Glazer, qui est le réalisateur d'un film qui s'appelle Zone d'intérêt, un film remarquable d'ailleurs, qui a remercié ceux qui lui ont attribué l'Oscar pour le meilleur film étranger, en disant: je me récuse en tant que juif et je dénonce la prise en otage de la Shoah pour justifier l'occupation. Et que le processus de déshumanisation est la chose la pire au monde qui puisse arriver. Oui. Et il a mis sur le même plan, naturellement, le 7 octobre, ce qui est arrivé le 7 octobre, et les 30 000 morts. Sans faire non plus la distinction entre les miliciens et les civils. Donc la déshumanisation des Juifs paraît évidente, mais les Israéliens auraient déshumanisé les Palestiniens, ça je n'ai strictement jamais vu. Que cela vienne d'un réalisateur juif qui tienne un propos aussi abject devant une audience pratiquement planétaire, qui a réalisé un film remarquable, qui disait la banalité du mal, c'est-à-dire la vie quotidienne de la famille du chef du camp d'Auschwitz par rapport à la tragédie qui se joue derrière le mur qui ceinture la propriété privée du chef du camp. Et donc il a tracé un parallèle entre le mal d'hier, entre Auschwitz, et ce qui se joue aujourd'hui. Il a dit, ce qui s'est joué hier n'est intéressant qu'à partir du moment où on se confronte à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il laisse entendre que la maison du chef de camp, c'est Israël. Que de l'autre côté du mur d'Israël, il y a, non pas Auschwitz, il y a Gaza. Donc, il dresse des parallèles absolument immondes, ignobles.
Ouais, donc ça, c'est le monde culturel. Le monde politique, malheureusement, n'est pas tellement plus glorieux. J'ai relevé, moi, quelques déclarations en France d'un ancien ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de l'Élysée, le dénommé Hubert Védrine. Hubert Védrine a déclaré que les colons empoisonnaient les puits et que les mêmes colons flinguaient les enfants palestiniens. Alors, il faut rappeler quand même qu'Hubert Védrine a été débouté en 2023. Oui. Il avait déposé un procès en diffamation là, pour une femme, une docteure française qui s'appelle Annie Faure, qui était présente lors du génocide rwandais. En 1994, il y a 30 ans.
Oui, qui avait impliqué la responsabilité
de la France. Et en particulier, celle d'Hubert Védrine, dans le rôle qu'il a joué en tant que secrétaire général de François Mitterrand à l'époque, à l'Élysée à l'époque, l'avait accusé ouvertement d'avoir favorisé, évidemment, les Hutus et le président à l'époque, Hutu. Il lui a fait un procès en diffamation qu'il a perdu. Il a perdu en 2023, il n'y a pas longtemps. Donc c'est de ce personnage-là dont on parle. Mmh. Et bien voilà, donc cet ancien personnage qui a déclaré que les Israéliens empoisonnaient les puits et flinguaient les enfants palestiniens.
Alors, quoi qu'on pense d'Hubert Védrine, et j'ai rarement trouvé un point d'accord avec ses déclarations, ça reste une belle mécanique intellectuelle. Qu'un homme de cette envergure, à l'intelligence reconnue, se laisse aller à un propos si incroyable, je veux dire, valider un des blood libels les plus anciens, les plus ancestraux qui existent, l'empoisonnement des puits, c'est ce dont on accusait les Juifs à travers les millénaires, à travers les siècles, c'est l'accusation la plus récurrente qui soit, les Juifs empoisonnent les puits. C'est quand même ahurissant. Et ensuite, le mot qu'il utilise, le verbe qu'il utilise pour dire il flingue les colons israéliens, flingue les Palestiniens, c'est-à-dire comme
les enfants palestiniens.
Les enfants palestiniens, les flingue, c'est-à-dire avec désinvolture. Pas les tue, non, il les flingue, là, comme ça, comme pour s'amuser. C'est dire comme cette espèce d'obsession sur Israël provoque comme dérangement dans le cerveau de ceux qui en sont le plus dotés.
Alors, restons en France, parce que le président français, lui aussi, s'est illustré par une déclaration. Il a fait deux déclarations. Il a manifesté sa profonde indignation. Souvenez-vous, là, effectivement, de ce drame qui a eu lieu lorsqu'il y a eu la distribution d'aide alimentaire, d'aide humanitaire dans le nord de Gaza. Centaines de Gazaouis qui étaient morts, essentiellement piétinés ou écrasés par les camions.
On a voulu refaire l'affaire Al-Shifa.
Tout à fait. Enfin, donc, il a manifesté sa profonde indignation, que des civils soient pris pour cible, a-t-il dit, dans cette crise du convoi humanitaire. Donc, un peu dans la même lignée de M. Védrine. Et puis, alors, par contre, sur le dossier ukrainien, il a fait aussi une déclaration que j'ai trouvée assez intéressante. Il a déclaré que la défaite de la Russie était absolument indispensable pour la stabilité et la sécurité de l'Europe. On aurait pu penser qu'ils disent la même chose de la défaite du Hamas.
Bien sûr.
Pas du tout. Non. D'après lui, il ne faut surtout pas rentrer dans Rafah pour défaire le Hamas, Isaac.
Oui, dans l'affaire ukrainienne, dans l'agression russe de l'Ukraine, il faut aider jusqu'à presque son dernier centime les Ukrainiens. Et la solution n'est que militaire. Elle ne peut pas être politique. On a exclu toute négociation. Il faut une solution militaire à ce conflit. En revanche, là où les armes ont fait leur preuve, là où les Israéliens ont fait la preuve de leur capacité à mettre un terme à la nuisance du Hamas, là où l'opération militaire porte des fruits, alors non, là, il n'y a pas de solution militaire. Elle n'est que politique. Comme si tout devait être fait pour sauver le Hamas du soldat Hamas. Il faut tout faire pour sauver le soldat Hamas. Et le regard que l'on porte sur ces deux conflits est diamétralement opposé. Il faut un soutien inconditionnel et permanent pour l'Ukraine, mais la priorité des priorités dans le conflit à Gaza, c'est de mettre la population à l'abri. C'est pas la fin du Hamas, dont tout le monde sait que c'est une précondition, une condition absolument indispensable pour fabriquer un avenir pour la région.
Alors peut-être pour terminer, parce qu'il nous reste une ou deux minutes, peut-être la panne de la plus grande bêtise dite cette semaine revient à Borrell, Josep Borrell, le coordinateur pour la politique étrangère.
Pluridécoré.
Oui, pluridécoré, effectivement. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'il décroche cette palme. Mais il a dit, en parlant évidemment du conflit entre Israël et le Hamas, il a dit qu'on ne combat pas une idée avec son armée. On combat une idée, dit-il, avec une autre idée. Ouais, c'est ça qu'il a déclaré.
À méditer en 1940.
À méditer, oui. En 1940, donc contre Hitler, il aurait fallu se battre contre Hitler. Avec de meilleurs arguments, de très bonnes idées et voilà, et de bons sentiments peut-être aussi.
Oui, probablement, quand on n'a que l'amour. Mais encore un petit mot pour dire toute l'indignation que suscite la mise à l'écart des femmes juives qui ont voulu manifester dans la journée des droits de la femme le 8 mars, c'est-à-dire il y a 3 jours seulement. Elles ont été exfiltrées par la police française pour leur propre sécurité.
Et en Belgique aussi.
Et je l'ai ajouté en Belgique, à Oslo aussi. Ça veut dire que la souffrance juive est désormais inaudible.
Parfait. Ben, ce sera Isaac, le mot de la fin pour cette semaine. Bonne semaine à tout le monde.
Au revoir. Au revoir.